Quand deux grands royaumes s'affrontent, le sang se répand.
Défendez-vous bien, sire. Méditez l'exemple de vos ancêtres.
Azincourt, 1415, l'étrange défaite, puis la résistance.
À ton fait, le compte de nos troupes.
J'ai relevé le nombre de chevaliers disparus, d'où je sens...
Non, ceux qui restent, combien sont-ils?
Très, très peu.
Dieu était anglais, aujourd'hui.
Avant Azincourt, sur ce même plateau d'Artois, en 1346, s'était produite la défaite prémonitoire de Crécy. Cette fois, le 25 octobre 1415, ce fut pis encore. Les Anglais s'étaient pourtant présentés sur le champ de bataille épuisés par une longue errance dans la région. Ils étaient en outre beaucoup moins nombreux et les chevaliers français, pleins de superbes, pensaient n'en faire qu'une bouchée. 4 heures de combat tournèrent très vite à la mêlée et bientôt à la boucherie. Le sort des armes fit exulter le roi d'Angleterre Henri V, la monarchie française, elle, que ne pouvait plus incarner Charles VI, plus souvent fou que lucide, entama la descente, marche après marche, du chemin de l'épreuve. Jamais elle ne parut plus proche de sa fin qu'en 1420. Pourtant, du fond de ce pays écartelé, déliquescent, se leva une force de résistance inattendue, à tel point qu'on peut parler de naissance, dans les années 1420-1430, d'un sentiment patriotique. Comme l'observe Régis Debray, il y a sans doute un pacte séculaire en France entre la grandeur et la déculottée.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Avec Valérie Toureille, bonjour.
Bonjour.
Qui publie un livre sur Azincourt chez Albin Michel. On expliquera ce que vous entendez par étrange défaite dans un instant. Mais d'abord, avouez quand même qu'il y a une certaine audace à refaire de l'histoire bataille.
C'est vrai. En même temps, vous l'avez compris en découvrant le livre, que la bataille était presque un prétexte à évoquer d'abord le moment politique très particulier qui l'accueillit, et puis surtout ses lendemains.
Alors le moment politique très particulier d'avant Azincourt. Du côté français, je parlais comme Régis Debray dans Madame H. Ah, les Français, évidemment, sont divisés.
Profondément divisés. En fait, en 1392, le roi est frappé par sa première crise de folie. Et très vite, deux partis, pour faire simple, dirons-nous, cherchent à batailler pour prendre la main sur le pouvoir. Ces deux partis, c'est le parti d'Orléans et le parti de Bourgogne.
Et puis, il y a l'ombre portée sur le royaume du puissant voisin qu'est le duc de Bourgogne.
Tout à fait. En fait, on entre dès 1407 avec l'assassinat de Louis d'Orléans dans une guerre civile. Donc, au cœur de la guerre de Cent Ans, s'épanouit un conflit intérieur dont les préjudices seront très lourds.
Alors, le jeune roi d'Angleterre, qui s'appelle Henri V, lui n'est pas comme Charles VI dans la défiance de la raison, dans l'inquiétude, dans la méfiance. Il a pleine possession de ses moyens. On va l'entendre ici, dans une adaptation de la pièce de Shakespeare signée Louis Ducreux. On va l'entendre prendre le conseil de ses proches, parmi eux l'archevêque de Canterbury, que faire vis-à-vis de ce royaume de France qui peut s'offrir comme une proie.
Dieu sait combien d'hommes, aujourd'hui rayonnants de santé, devront verser leur sang pour soutenir le parti que nous prendrons, après vous avoir entendu. Réfléchissez au nom du ciel. Quand deux grands royaumes s'affrontent, le sang se répand.
Défendez-vous bien, sire. Méditez l'exemple de vos ancêtres. Allez, monarque redouté, sur la tombe de votre bisaïeul qui vous légua ses titres. Invoquez son esprit guerrier, celui de votre grand-oncle Édouard, le prince noir. Il supportait la tragédie sur la terre française et triomphait de ses ennemis, tandis que son père vénéré, du haut d'une colline, souriait de voir son lionceau se baigner dans le sang de la noblesse ennemie.
Sire, vous êtes leur héritier. Vous siégez sur leur trône. Le sang et le courage qui fit leur gloire coulent dans vos veines. Vous voici, mon très puissant seigneur, au tout premier matin de votre jeunesse. C'est l'âge des grands exploits et des prouesses héroïques.
Vos frères, les rois et les monarques de la terre, guettent l'instant où vous retrouverez l'élan des vieux lions de votre race.
Cette référence des conseillers aux aïeux du jeune et très puissant seigneur est à ce point réitérée, Valérie Toureille, qu'elle en devient presque suspecte.
Absolument. En fait, on évoquait le contexte politique français. En fait, en 1399, on a écarté violemment du pouvoir le jeune Richard II, qui avait justement montré des signes de rapprochement avec la France. Et on l'enferme tout bonnement dans un château avant de l'empoisonner dans le plus grand secret. Et donc ce dernier Plantagenet est supplanté par un Lancastre, Henri IV, le père d'Henri V. Et c'est vrai que cette généalogie est pas contestable. Les Plantagenets et les Lancastres sont des cousins, mais malgré tout, Henri IV est montré comme un usurpateur.
Il est bon de marquer qu'il y a une ligne droite alors que l'histoire s'est écrite en termes courbes. Alors Valérie Toureille, cette année 1415 dans laquelle on va pénétrer, Henri V s'en est allé faire une démonstration de force dans la France affaiblie en s'attaquant à Harfleur, qu'il finit par prendre le 22 septembre, c'est dans la Seine-Maritime actuelle. Et cette démonstration faite, il entend rejoindre calmement Calais, qui est une place forte depuis 1347 des Anglais. Ça ne va pas être une promenade, ce chemin qu'il a décidé de prendre d'Harfleur à Calais.
Non, c'est même une décision curieuse. Ce siège d'Harfleur a épuisé ses hommes. On pense qu'un tiers de son armée a été décimé par ce siège en raison de dysenterie. Il manque de vivres, nous sommes en septembre, il est un peu tard pour entamer une nouvelle campagne. Alors se posent des questions, doit-on rembarquer? Doit-on poursuivre? Peut-on se rendre jusqu'aux portes de Paris? Et finalement, Henri V choisit de prendre la voie de terre, de parcourir cette Normandie qu'il convoite. Et c'est vrai que des récits évoquent cette famine qui tenaille les hommes, qui se nourrissent de baies, de fruits.
Parce qu'il faut qu'ils franchissent tôt ou tard la Somme pour rejoindre Calais. Et le gué est difficile à trouver parce que la rivière est surveillée.
La Somme est extrêmement difficile à traverser déjà. Et à mesure que cette armée anglaise avance, il y a des rumeurs qui bruissent. D'abord, les Français qui n'ont pas bougé dans un premier temps. Harfleur est tombée toute seule, sans l'aide du roi et de son armée. Là, il y a une mobilisation. Donc le roi est amené à Rouen, on discute, le conseil décide effectivement de lever l'Ost pour combattre Henri V.
Il y aura beaucoup plus de combattants français que de combattants anglais au moment où la bataille va se déclencher à Azincourt. C'est quand même un lieu que les Anglais ont eu la liberté de choisir au bout de leur errance, un champ labouré, dites-vous, entre deux forêts. On va essayer de reconstituer la bataille. Vous savez que c'est un exercice très à la mode maintenant, la reconstitution de bataille.
Oui.
Et dans des conditions plus favorables que celles d'octobre, sans la pluie, sans les averses, sans la boue, des reconstituteurs au nombre de 800 se sont réunis cet été. Alors il leur était interdit, vous allez me faire des commentaires, de porter des salades à visière, des gorgerins articulés, je lis l'affiche, des fléaux, des masses d'armes, des dagues, pas de bouclier en métal ou garni de métal, mais alors on combattait avec quoi vraiment? Il y avait si peu de matériel disponible?
Non, il est clair que des blessés lors de ces reconstitutions...
Ça ferait mauvais effet.
Voilà. Donc on évite aujourd'hui de les armer un peu trop puissamment. Mais évidemment, pour le moment qui nous concerne, ils sont armés, je parle des Français, de ce qu'on appelle le blanc arnois, cette armure de plate, ces grandes... Ce sont des plaques en fait articulées qui couvrent entièrement le corps du combattant qui se pose par-dessus le haubergeon, alors que les Anglais ont un équipement beaucoup plus léger. Alors il faut dire aussi que les Anglais sont constitués pour l'essentiel d'archers. Ce sont des gens qui sont recrutés dans une paysannerie plutôt aisée et ils ont plutôt ce qu'on appelle un grand bison, c'est-à-dire Une veste de cuir rembourrée, voilà. Donc,
alors, les archers anglais sont différent. En haut, parce que les Anglais ont pu choisir leur terrain. Le terrain est légèrement en pente. Les Français, beaucoup plus nombreux, sont en contrebas. Alors, il y a 800 reconstituteurs, c'est de la blague. Il y avait combien de combattants du côté français, il y avait?
Alors,
une avant-avant-garde, une avant-garde,
oui.
Une arrière-garde.
En fait, on a constitué le corps de bataille de manière très traditionnelle du côté français. C'est-à-dire que on a l'avant-garde, on a les ailes, on a le corps de bataille, on a l'arrière-garde. Alors que les Anglais se sont constitués en une seule et même ligne, très compacte, dense, mais une seule et même ligne. Et ils ont aussi caché dans les bois adjacents, au moins l'un d'entre eux, des archers.
Alors la reconstitution telle qu'elle a été vue par France 3 et puis après la restitution selon Henri V et les grandes batailles du passé aussi.
Ils sont français, anglais, belges, hollandais et allemands. Le froid, la pluie et le vent ne leur font pas peur. Ils sont même heureux, disent-ils, de connaître les mêmes conditions météo que celles qui sévissaient en octobre 1415 sur le site d'Azincourt. 583 ans plus tard, la paix règne, et cette reconstitution est même devenue une preuve d'amitié.
On boit un coup.
Apprenez que les Anglais sont rangés en ordre de bataille.
Ah, allons, vaillant prince, à cheval. Faisant seulement face à cette pauvre bande d'affamés, notre splendide apparition leur fera perdre le peu de cœur qui leur reste, et nous n'aurons plus devant nous qu'une armée de spectres. Que les trompettes sonnent l'attaque, et aussitôt après la fin des combats, car nous verrons à la première sonnerie les Anglais rampés de peur et se rendre. Et en avant. Allons, en avant.
Monseigneur, prenez garde. La terre est totalement détrempée. On m'affirme que les chevaliers anglais ne sont pas très nombreux. On lui dit.
Sur le terrain profondément labouré par les mouvements de notre piétail, mon cheval enfonçait jusqu'au genou. Les archers d'Angleterre paraissaient danser tant ils étaient légers dans leurs cottes de cuir. Ce ne fut pas une bataille, mais un jeu de quilles. Pour moi, c'est seulement le lendemain de ce tumulte qu'on me retrouva sous un monceau de cadavres, près du village d'Azincourt.
Alors certains chevaliers français sont à cheval. Le cheval s'enfonce dans la terre qui est devenue boue. Mais beaucoup de chevaliers ont accepté de combattre à pied,
oui,
de monter la pente.
Oui, oui, ça a été un mouvement conjoint très compliqué parce que les ailes se sont avancées et puis derrière sont montés les hommes d'armes. Et ce sont les flèches de ces redoutables longbows hein, qui ont freiné cette charge de cavalerie puisque ces flèches, elles sont d'abord là pour effrayer et tuer les chevaux.
Mais au bout d'un moment, il n'y a plus assez de flèches, expliquez-vous, Valérie Toureille, et c'est le corps à corps.
Oui.
Mais c'est quand même très difficile d'interpréter cette bataille parce qu'elle ressemble à une mêlée. Les chroniqueurs ont peut-être exagéré, mais ils ont dit que les Français ont été gênés par leur très grand nombre. À mesure que certains voulaient se replier, ben, il y avait les lignes de derrière qui avançaient, qui les en empêchaient. Et un mur de corps aussi haut qu'un homme se dressait.
Oui, mais quand les chevaux tombent devant ces lignes, il devenait encore plus difficile de les franchir. Et pourtant, même si on a beaucoup critiqué l'attitude de ces chevaliers, certains sont allés très loin hein, pour bousculer la ligne anglaise, hein, puisqu'on sait que le duc d'Alençon en particulier hein, a frappé Henri V.
Et a tué aussi son voisin, oui. Le duc d'York. Oui, c'est pas exactement une bataille qui se déroule comme Crécy que je citais dans le chapeau en 1346, parce que les Français avaient quand même appris quelques leçons de Crécy. Ensuite, Henri V, vainqueur, va passer comme prévu par Calais, mais dans un très grand arroi pour rejoindre Londres où il va être fêté. Alors le souvenir d'Azincourt dans la mémoire anglaise, vous en parlez longuement, est très présent, à tel point que ce chant choral qu'on va entendre ici, il a été repris, expliquez-vous, dans la capitale anglaise, à quelle occasion récente ?
Pour la célébration, l'organisation plutôt des Jeux Olympiques à Londres.
C'est-à-dire que quand Paris Londres a été évincé par Londres, on a fêté ça à Londres de la manière qui suit.
Pour
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
À voir mon écu, les ennemis s'aperçurent que j'étais l'un des premiers barons du royaume. Comme ils aiment l'argent, ils se gardèrent bien de me mettre à mal, résolus qu'ils étaient de se faire donner une formidable rançon. Prisonnier, je fus conduit en Angleterre.
Doit-on vous plaindre ?
Vous ne pouvez savoir combien il m'est pénible de vivre hors de France. Hors de la douce France.
Mais si, monseigneur, je le sais, car vos beaux vers d'exil chantent dans ma mémoire, en regardant vers le pays de France.
Un jour m'advint à Douvres sur la mer qu'il me souvint de la douce plaisance que je soulouais au dit pays trouvé. Alors chargèrent la lève d'espérance tous mes souhaits en leur priant d'aller outre la mer sans faire demeurance, et à France de me recommander.
Charles d'Orléans, Azincourt et ses suites, avec Valérie Toureille qui publie un livre chez Albin Michel, qui participe aussi à l'exposition du musée de l'armée consacrée à 1415. Nous sommes en 1415 aujourd'hui et 1515. Les prisonniers. Alors, Henri V d'abord, qui a laissé massacrer beaucoup de chevaliers au rebours des lois chrétiennes de la guerre. Et les paysans qui ont déshabillé les morts sur le champ de bataille ont réservé une mort ignoble à beaucoup de nobles.
C'est vrai. Henri V a fait plus que ces massacrés. Il a ordonné le massacre des prisonniers. C'est un épisode de la bataille, évidemment, qui est une tache dans la mémoire de l'histoire anglaise. Voilà. Ils argumentent en disant que les circonstances l'exigeaient et qu'il y avait une menace de prise à revers. Bon, il est vrai quand même que au Moyen-Âge et surtout au XVe siècle, il est de coutume de faire des prisonniers parce que l'on investit dans la guerre et que c'est une façon d'en tirer parti.
C'est-à-dire que quand on est un simple archer et qu'on a un, deux, trois, c'est possible d'en avoir plusieurs prisonniers,
oui.
Ça va servir de moteur à l'ascension sociale.
Tout ça est très très réglé et hiérarchisé. C'est-à-dire que si un simple archer capture un noble, il doit d'abord le conduire auprès de son capitaine, qui est lui-même noble, et qui lui rétrocédera une partie de cet argent. Chez les Anglais, c'est encore plus formalisé parce que le roi d'Angleterre touche aussi une part sur les prisonniers, sur les rançons de ses prisonniers.
Charles d'Orléans, dont on entendait un extrait de poème bien connu, est resté 25 ans en prison en Angleterre. Il faut dire que le montant de la rançon qui était demandée à sa famille était énorme. Pendant ce temps, la France descend dans l'épreuve. Henri V va revenir en 1417, une nouvelle promenade de santé en Normandie qu'il convoitait, expliquez-vous, et qu'il va occuper.
Oui. Et en 1417, là encore, aucune réaction de la part de la monarchie qui est, comment dirais-je, paralysée. C'est vrai qu'on est là dans les lendemains de la défaite.
Vous parlez d'exode.
C'est
en
vrai.
Normandie, à cette époque-là, le roi Henri V chasse les citadins.
Il chasse une partie des habitants. Harfleur, bon, il les a peut-être pas chassés en totalité. Il en a chassé une partie et puis. C'était un marché à prendre ou à laisser. Hein. Vous acceptiez de prêter serment au roi, soit vous quittiez la ville et vous abandonniez tous vos biens.
Charles VI, le roi de France, devient de plus en plus fou. Sa femme est manipulable, Isabeau de Bavière. Le dernier dauphin, Charles, va se réfugier sur la Loire, non sans avoir assassiné ou laissé assassiner. Vous allez dire laissé assassiner. Le duc de Bourgogne.
Plus que ça, commandité l'assassinat de l'autre compétiteur. Hein, rappelez-vous, on a évoqué l'assassinat du duc d'Orléans. Et bien en 1419, c'est au tour du duc de Bourgogne de passer sous la lame tranchante de ses adversaires.
Et le roi d'Angleterre va entrer dans Paris et imposer en 1420 un traité à Troyes qui met le couple royal Charles VI, Isabeau, sous sa coupe. Isabeau a désavoué d'ailleurs son fils Charles le Dauphin.
Paix à cette assemblée, paix pour laquelle nous sommes réunis. À notre frère de France et à notre sœur Isabeau, santé et gracieux bonjour.
Soyez les bienvenus ici, vous et vos princes.
Et nous voulons que cette journée change en amour, griefs et querelles.
Puisque mon ambassade a réussi à mettre face à face, tête à tête, yeux dans les yeux, vos impériales personnes, vous ne vous enfoncerez pas si j'ose maintenant vous demander quel obstacle, quel empêchement s'oppose au retour de la paix, cette chère nourrice des arts, de l'abondance et des familles prospères dans le plus beau jardin de l'univers.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Une telle entrevue n'a été possible, 4 mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve. La France s'est ressaisie. Cette première rencontre entre le vainqueur et le vaincu marque le premier redressement de notre pays.
Alors, les auditeurs vont peut-être être surpris de ce télescopage entre une vieille tribune de l'histoire et le plus vieux maréchal encore. J'ai lu, c'est imprimé dans votre livre, que Montoir, c'est un autre traité de Troie. Alors, une chose est de le lire imprimé sur du papier, autre chose est de l'entendre à l'oreille. Là, vous sentez l'anachronisme que vous avez commis.
Oui, mais volontairement, un peu par provocation. Il s'agit évidemment de replacer le terme de résistance dans le temps long.
Mais là, on est à la collaboration.
Oui, mais comme le traité de Troyes, Montoir a aussi provoqué un sursaut de résistance.
Alors, Montoir 3, ça va avoir les mêmes effets, ça peut être rapproché. Attendez, il faut quand même que vous défendiez plus précisément votre point de vue, parce que vos collègues, et pas seulement les auditeurs, ont dû être passablement choqués, Valérie Toureille. Parce que qu'est-ce qu'on attend d'un historien, c'est qu'il reconnaisse l'altérité de l'époque à laquelle il s'intéresse.
C'est vrai, mais je crois qu'il y a aussi, des continuités, il y a des racines qu'il ne faut pas oublier. Et la résistance, elle ne naît pas en 1940.
Mais attendez, vous revenez toujours à 1940, vous allez expliquer pourquoi. Deuxième péché, Valérie Toureille, téléologie. J'explique, tout doit converger vers quelque chose qui s'est accompli, mais que les contemporains ne devinaient aucunement. Et tout doit converger vers la Seconde Guerre mondiale, qui serait un facteur d'explication et l'observatoire numéro un.
Bien sûr que non. Justement, l'histoire ne commence pas au XXe siècle. Et je peux être encore plus provocatrice parce qu'on pourrait aussi travailler sur la résistance en Judée au moment de l'occupation romaine où les opposants étaient qualifiés de brigands comme nos Normands le sont par les Anglais après le traité de Troyes.
Vous citez un grand maître qui s'appelle Édouard Perrois, qui était extrêmement discret, un petit bonhomme très voûté, excellent décrypteur de manuscrits. Jamais aucun de nous étudiants n'aurait pensé que c'était un résistant de la première heure. Et il a écrit un livre sur la guerre de 100 ans pendant l'occupation.
Oui.
Et il disait ça, ce que vous dites. Il le sentait, enfin.
Oui, je le cite en exergue. Pour le parallèle qu'il établit et qui me semble tout à fait juste.
Alors la résistance. Attendez, c'est pas fini, chers auditeurs. Voilà que Valérie Toureille prétend qu'il y a eu des maquis en Normandie.
Oui.
Alors j'entends, il y a les lieux de résistance de la Normandie occupée. Sur le flanc ouest, il y a le Mont-Saint-Michel, mais ça c'est une forteresse. Mais il y a des maquis en Normandie pendant cette période.
Oui, on connaît la résistance des capitaines. Vous évoquez le Mont-Saint-Michel, on évoquera peut-être une autre place tout à l'heure, tenue par un autre capitaine célèbre. Mais là, je parle de la résistance du peuple, de ceux qui, sans commandement, ont choisi de quitter maison et propriété et famille aussi pour rejoindre la forêt.
La conscience collective des communautés rurales, je vous cite, était suffisamment armée pour que naissent spontanément des révoltes.
Oui. Il y a au moins à deux moments des mouvements d'ampleur assez importants pour donner lieu à une répression féroce. Hein. Je prendrai simplement l'exemple de 1436 où un paysan qui s'appelle Bauchier va lever comme ça des paysans armés et ce soulèvement va se solder quand même par 1000 exécutions. Ce ne sont pas des mouvements mineurs.
Ça fait un sentiment patriotique conscient parce que maintenant vous allez nous parler des capitaines. Alors, il y en a dans la Normandie que vous connaissez bien, il y en a dans la Meuse actuelle que vous connaissez encore mieux, un certain Robert de Sarrebruck, qui était damoiseau de Commercy, et le fameux Robert de Baudricourt, dans la forteresse voisine de vos couleurs. Mais attendez, c'est des gentilshommes irréguliers, autant que des patriotes. Des gentlemen cambrioleurs, autant que des résistants.
Tous les hommes de guerre du XVe siècle sont des routiers, pour employer un terme générique. C'est Lahire qui disait si Dieu avait été homme d'armes, il se serait fait pillard. Donc bon, voilà, il mène la guerre avec les moyens du temps, avec la brutalité qui est la sienne aussi.
Alors, scène dans Sainte-Jeanne, téléfilm de vieille extraction, où nous avons le capitaine de vos couleurs. Je me demande s'il ne parle pas à votre copain Robert de Sarrebruck, parce qu'à Robert de Sarrebruck, vous avez consacré récemment un livre.
Si nous avions tant soit peu de bon sens, nous irions rejoindre le duc de Bourgogne et le roi anglais. Ils tiennent la moitié du pays, jusqu'à la Loire. Ils ont Paris. Ils ont ce château même. Le dauphin est à Chinon, comme un rat dans une encoignure, sauf qu'il refuse de se battre. L'anglais prendra Orléans. Le bâtard ne sera pas capable de les arrêter.
Oh, il a battu les anglais l'avant-dernière année à Montargis, j'étais avec lui.
Peu importe. Maintenant, ces hommes sont découragés, et il ne peut pas faire de miracle. Et je vous le dis, rien ne peut nous sauver qu'un miracle.
C'est bel et bon, les miracles, mais il n'y a qu'une difficulté à cela, une seule. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne se produisent plus.
C'est ce que je croyais, moi aussi. Mais maintenant, je n'en suis pas aussi sûr. En tout cas, ce n'est pas le moment de ne pas remuer ciel et terre.
Voilà, et le miracle entre ciel et terre, ce sera l'épisode météorique, dites-vous, de la Pucelle. C'est une drôle d'idée de se livrer à ce Robert de Baudricourt, qui n'est pas un homme, à certains égards, très recommandable.
Non, mais c'est le seul représentant de l'autorité royale sur la frontière de Lorraine.
Donc au fond, si je comprends bien, Azincourt a donné la Pucelle, comme l'étrange défaite de 1940, pour reprendre le terme de Marc Bloch, a donné le général de Gaulle.
Jeanne d'Arc, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Elle appartient à ce mouvement plus général que j'évoquais tout à l'heure avec ces paysans normands qui prennent le maquis. C'est-à-dire que c'est cette résistance populaire qui, étrangement, se lève... difficile à qualifier, se lève contre l'occupant parce qu'il est étranger, parce qu'il parle une autre langue, parce qu'il veut imposer une autre administration, d'autres cadres à cette population.
Votre livre chez Albin Michel, et puis alors on peut recommander l'exposition Musée de l'Armée, où là, vous vous livrez à une étude très rationaliste des leçons militaires que le dauphin Charles, le futur Charles VII, va tirer d'Azincourt. Il va développer l'artillerie,
tout à fait.
Cette arme du diable... Et puis, je voulais vous poser une question, parce que là, on a chevauché à travers les siècles, grâce à vous, Valérie Toureille, mais si on reste sur le champ d'Azincourt, on pourrait peut-être faire des fouilles pour vérifier un certain nombre d'hypothèses, non? Il n'y a jamais eu de fouilles sur le terrain d'Azincourt?
De fouilles systématiques et organisées, non. Il y a un Anglais qui est venu au lendemain de Waterloo gratouiller la terre et extraire quelques ossements qu'on lui a ordonné de reposer au plus vite parce que c'était déjà blasphématoire pour les gens d'Azincourt. Mais peut-être une campagne pourrait-elle s'ouvrir, hein. La gendarmerie est très investie sur le terrain pour essayer justement d'organiser de nouvelles fouilles. On avait fouillé une chapelle aussi, on avait retrouvé des
Ben voilà, un terrain d'enquête qu'on ne contestera pas aux gendarmes, c'est pas le cas de toutes les enquêtes qu'ils mènent dans d'autres coins de France actuellement. Merci à vous Valérie Toureille, l'émission a été réalisée par Stéphane Ronxin avec à la technique Fabrice Desmas, c'est la fabrique de l'histoire, et la préparation Elinka Negulesco, Céline Loriou, Mathieu Vidard et Mathieu Vidard va arriver dans un instant. Et Franck Olivard. Je vais rejoindre l'équipe de la Marche de l'Histoire.
C'est
Mathieu.
Sympa.
Vous faites de la préhistoire aujourd'hui.
Oui, absolument. Sven Tepebe, paléogénéticien, c'est un invité exceptionnel dans un instant pour nous parler entre autres de cet ADN de Néandertal que nous possédons en nous.
Le génome de Néandertal nous habite. Il est 14h, vous écoutez France Inter.